Bienvenue dans le placard, le podcast qui vous ouvre les portes sur un monde plus queer. Donc aujourd'hui, nous enregistrons un épisode hors série un peu spécial, car cet épisode sera enregistré sans Eva. Donc elle ne se sentait pas trop bien et on lui fait des gros bisous et on espère
oui, qu'elle... on lui fait des gros bisous.
qu'elle se sentira mieux bientôt. Plein d'ondes positives. Donc c'est un peu bizarre parce qu'en fait, ça fait un an qu'on a lancé le placard. Eva et moi, on a commencé ce projet-là en avril 2021. Et on vous fera un épisode spécial à ce sujet une fois qu'elle se sentira un petit peu mieux. Mais pour l'épisode de ce mois-ci, on va vous parler de l'expérience en tant que Français résident à l'étranger. Et via cette discussion, on va essayer de se demander, comme Mulder, si la vérité est ailleurs. Les fans d'X-Files se comprendront. Donc je suis en compagnie de Thomas, un ami et collègue de travail. Thomas a une double nationalité française-anglaise et vit en Angleterre depuis 12 ans. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous donner tes pronoms et du coup, d'où tu vis en ce moment, Thomas?
Donc salut, moi c'est Thomas, donc mon pronom ça sera il, je suis gay et je vis à Brighton actuellement.
Merci, merci. Et donc pour celles qui ne savent pas, moi c'est mes filles, j'utilise les pronoms elle, yel et vous l'aurez compris, je vis aussi à Brighton sur la côte sud anglaise et je m'identifie comme une personne queer racisée. Donc première question, pourquoi tu as décidé de partir en Angleterre?
C'était il y a un petit moment maintenant, c'était il y a 12 ans, et du coup, c'était plus pour des raisons professionnelles. À la base, j'ai fait une école de cinéma, j'écrivais des petits scénarios de films, etc. Et en fait, le contexte politique et social a fait que c'était plus trop possible de gagner ma vie en faisant ça, et du coup, ayant une maman anglaise j'avais passé 27 ans de ma vie en France. J'avais toujours voulu un peu découvrir mes racines autres que françaises, on va dire. Et du coup, ça faisait un petit moment que ça me démangeait. Je me suis dit, je vais partir vivre en Angleterre. Voilà. Je vivais à Paris et j'avais un peu du mal avec la vie parisienne.
D'accord.
Voilà.
Je pense qu'on en reviendra sur ton expérience à Paris et en France d'une manière générale. Tu as répondu un peu à la question suivante, du coup, qui était combien de temps tu as vécu en France et où, du coup, parce que tu as mentionné Paris.
Enfin, à la
Est-ce que tu
base,
voudrais.
je suis né, j'ai grandi à Pau, dans un petit village très très rural. Du coup, ma vie n'est pas parisienne à la base, non. Mais après le bac, j'ai beaucoup bougé dans des villes diverses et variées, mais j'ai fini à Paris,
Ok, Paris t'appelait, quoi.
ouais.
C'est
Ouais, on
ça?
va dire ça comme ça, ouais. Disons que quand on a fait une école de cinéma, les possibilités en dehors de Paris, elles sont pas.
Limite.
Ouais, c'est ça. Donc, si je voulais faire quelque chose dans ce milieu-là, c'était Paris ou Paris.
Ou pas.
Ouais.
Est-ce que tu te rappelles de ton premier coming out? Quel âge tu avais à peu près?
Mon premier coming out, je devais avoir 17 ans. Comme 90% des homosexuels, je suis tombé amoureux de mon meilleur ami. Ça n'a pas forcément fonctionné, on va dire. Il était hétéro, il a pas vraiment, il a pas, il a, il était pas très très à l'écoute de ce que j'avais à lui dire, on va dire ça comme ça. Et j'étais tellement mal que j'ai commencé à en parler à mes amis. Je sais pas ce que c'est le réflexe, le premier réflexe, ouais, on en parle à ses amis autour de soi et essayer de voir si les gens sont compréhensifs et ou pas. Voilà. En soi, ce que je considère comme mon vrai coming out, c'est plus vis-à-vis de ma famille, ma maman et tout ça. Et ouais, j'avais 21 ans. Ça a été. Ma mère, elle est très ouverte, mais mon frère et ma sœur aussi, il n'y avait pas de soucis. Enfin, j'ai pas eu. C'était pas un vrai problème en soi. C'est pas. On est très vite passé à autre chose, on va dire ça comme ça. Donc, ouais.
Donc ils l'ont bien pris.
Ouais, franchement, ouais. Ma mère, au début, elle voulait pas forcément. Elle voulait pas forcément entendre parler de mecs, elle voulait pas forcément rencontrer mes mecs non plus, mais l'année d'après, la grande révélation, je lui ai présenté un gars parce que je voulais un peu forcer le truc et qu'à l'époque je pensais que ce gars était important pour moi. Ouais, ça a été quoi. Après, ma mère était un peu. En plus, elle a plein d'amis homo, je sais pas, je pense que c'était le fait que ce soit
Pour
sans
toi,
fils, ouais, c'est pas pareil quoi. Je voyais qu'elle n'était pas ultra à l'aise et qu'elle aurait aimé que ce soit plus une fille qu'un mec, de toute évidence. Mais je pense que dans ces cas-là, dans ce genre de contexte, les parents, ça leur renvoie à leur rôle de parents et à ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont pas réussi, blablabla, blablabla. Voilà, quoi. Mais, ouais.
Tu as parlé de tes potes aussi, mais donc du coup, comment tes amis réagissent à ce moment-là? Parce que des fois, les jeunes sont pas non plus super tendres.
Bah après non, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, je pense. J'ai rencontré des gens très ouverts, très intelligents, et grosso modo le seul retour que j'avais, c'était oui, ben on le savait déjà de toute façon. Donc c'était, ouais, voilà, c'était une fausse surprise, quoi. La plupart de mes potes sont hétéros en plus, mais ouais, il y avait zéro pro... Enfin, ouais, non. Mes amis, de toute façon, je savais que ça serait pas du tout un problème. Même certains d'entre eux, ils me tendaient plus ou moins la perche et tout pour que je leur fasse mon coming out avant que je le sois prêt moi-même, quoi. Donc, ouais. Bah, disons que je commençais à parler un petit peu de ce que je ressentais pour mon meilleur ami à cette époque, et du coup, bah, ça sous-entendait un chouïa que j'étais pas sexuel, donc, ouais, voilà.
Donc, comment as-tu vécu ton homosexualité en France et as-tu eu des situations compliquées?
Bah, en soi, pas vraiment. Je pense que quand j'étais ado, j'ai fait du théâtre. En fait, je pense que ça m'a ouvert aux autres. Ça m'a permis d'apprendre à communiquer avec l'autre. Et je sais pas. Je pense que le fait que je sois aussi à l'aise avec qui j'étais, avec moi-même, en fait, les autres étaient désarmés, entre guillemets, qui savaient pas comment réagir, et du coup, ils m'acceptaient parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, en fait. Après, si, il y a toujours les petites histoires de balles, genre, oui, j'ai rencontré tel gars dans tel endroit et qui m'a fait une petite remarque parce que j'avais un petit rire un peu trop, je sais pas, qui pouvait laisser penser que, mais non, enfin. En soi, non, franchement, je peux pas dire que j'ai mal vécu mon homosexualité à un moment donné en France. Le seul truc, comme je te disais avant, c'est une fois quand j'ai voulu donner mon sang, quand j'étais à l'université, on m'a posé des questions qui étaient très perso et je comprenais pas trop le but de l'opération. Et quand elle m'a demandé si j'étais homo ou pas, et que j'ai répondu oui, elle m'a dit que je pouvais pas donner mon sang, et je trouvais ça choquant. Et c'était donc en 2001.
Ouais, donc il a fallu attendre 21 ans pour que seulement maintenant cette condition soit retirée, quoi.
En même temps, je pense que l'homosexualité était considérée comme une forme de démence jusqu'en 1973, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Mais après, non, c'est...
J'imagine, il y a quand même une évolution des mœurs, donc quand même, ça aurait pu être, cette condition, elle aurait pu être retirée depuis bien
Ouais, mais je
longtemps.
pense que c'est le contexte de, bah, enfin, le contexte du sida qui fait que, bah, c'était la maladie des PD, en fait. Et en même temps, le monde, il a pas tant évolué que ça. Le Covid, au début, on disait que c'était surtout les noirs, après surtout les pauvres, après surtout pas, je sais pas, je suis pas sûr que le monde y ait beaucoup changé. C'est juste qu'à cette époque-là, bah ouais, il y a eu le sida et que les premières victimes reconnues étaient homosexuelles. Et du coup, jusqu'au mois de mars de cette année, c'était encore compliqué de donner son sang quand on était homo. Ce que je trouve assez hallucinant, ouais.
Et d'ailleurs, du coup, tu parles de ben voilà, du VIH et de l'homosexualité, ce qui fait penser à une série,
Ouais.
It's a Sin, il y a pas longtemps d'ailleurs,
Oui, sur tes
sur
conseils,
des
et
conseils
voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon âme.
Mais est-ce que c'était pas une bonne série
Non,
quand
mais
même?
grave, c'était, non, c'était assez hallucinant. Et puis enfin, un truc qui m'a fait, que j'ai découvert par le biais de cette série, c'est que, bah, comme le Covid, on laissait les gens mourir en isolement, et je savais pas que c'était le cas pour le sida aussi. Surtout qu'on savait que c'est... Enfin, je crois que
Ah,
même
c'est
dès le
une
début...
spoiler. Gros spoiler, du coup, vous avez pas vu passer les deux prochaines minutes en accéléré.
Non, mais surtout que je pense qu'à cette époque-là, on savait dès le départ, plus ou moins, que c'était une maladie sexuellement transmissible. Certes, les gens flippaient, ils pensaient qu'il y avait peut-être moyen de l'attraper autrement, mais du coup, ça justifiait pas l'isolement, et je pense que c'était un peu, une manière, bah, on parle de It's a Sin, donc c'est en Angleterre, et l'Angleterre était encore quand même très puritaine, enfin, l'Angleterre est pleine de contradictions, et il y avait un côté très puritain, et du coup, je pense que c'était une manière de condamner les gens parce qu'ils étaient homo plus que parce qu'ils étaient malades en fait. Mais tu m'as fait beaucoup pleurer avec ce
Du coup, ouais, It's a Sin à regarder. Je crois d'ailleurs, j'avais vu que c'était dans le magazine Tétu, ils en avaient parlé aussi en
Ouais.
France. Bah, ça fait quelques mois qu'elle est sortie quand même cette série. C'était l'année dernière, je crois.
Ouais, je
Donc,
crois bien, ouais.
ouais, It's a Sin, autrement traduit par C'est un péché. J'imagine, c'est comme ça qu'ils
Et
traduisent
ça
en
l'est.
espagnol. Donc voilà, à regarder. Sur Netflix UK actuellement, je
Je
fais de
crois.
la pub
Oui,
comme
c'était
ça, comme si
Netflix.
on n'avait pas
Ouais.
d'argent.
Netflix en a bien besoin.
du coup, voilà. Donc, je vais passer à la question suivante. Pardon. Donc, du coup, tu nous as parlé de ton expérience, ton homosexualité en France. Comment as-tu vécu, du coup, ton homosexualité en Angleterre?
Alors, comme je disais, j'ai pas forcément mal vécu mon homosexualité en France, mais cela dit, la dernière ville en France où j'ai vécu, c'était donc Paris. Et, qui dit Paris dit le Marais quand on est homosexuel. Et le Marais, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal. Tout le monde, comme je disais, tout le monde s'habille pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde mange pareil, tout le monde écoute pareil. Enfin, c'est très étrange. Comme s'il y avait une volonté de se fondre dans la masse. Et en Angleterre, je suis arrivé à Londres et je l'ai. Bah, je suis pas sûr que j'ai mentionné mon âge, mais j'ai 39 ans et c'est dur à dire. C'est dur, très très dur à dire. Mais mes premiers rapports homosexuels, c'était à la fin des années 90 et même, enfin, même avant d'avoir des rapports, je savais déjà que j'étais homosexuel et j'ai grandi à une époque où un homosexuel était un marginal et que c'était quelqu'un qui avait un mode de vie différent. Et je pense que ce que je pouvais voir dans le Marais à Paris, c'était une volonté de faire partie de la société, de se fondre dans la masse. Et ouais, et quand je suis arrivé en Angleterre, la différence, c'est que j'ai l'impression que les Anglais ont gardé cette idée que, bah oui, que l'homosexualité est liée, enfin, les Anglais homosexuels sont pas des marginaux, mais ce que je veux dire pareil, ils ont gardé cet état d'esprit, en tout cas, et ce côté, un peu alternatif, quoi, je sais pas, et je me retrouve beaucoup là-dedans, enfin, et d'autant plus à Brighton. Je sais que ça va venir un peu plus tard, mais ouais, il n'y a pas d'équivalent de Londres, de Brighton en France. C'est juste, enfin, ouais, et surtout pas Paris. Mais non, en soi, j'ai rien contre Paris, mais à Paris, on se laisse porter par une espèce de vibe qui fait que, ouais, on finit tous dans le même moule. J'étais dans le même moule que les autres. En plus, parce que du coup, vu que le souci de s'intégrer dans la vie de la ville, etc., fait que on finit par essayer de rentrer dans cette espèce de moule chelou et que j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie à essayer de m'adapter, alors qu'en fait, j'aurais pas, enfin, ouais, c'était comme ça, quoi. C'est, ouais.
Après, c'était ton expérience, tu vois. On peut
Oui,
dire
non, non,
quoi qu'on
mais
veut, mais
tout est
c'était
très
pas.
subjectif, hein. Oui,
Voilà.
oui.
Non, mais je veux dire, c'était ton expérience à toi, à
Voilà.
un moment donné. Du coup, c'était il y a
C'est
quand même pas mal
ça. On peut
d'années.
pas du tout tirer une généralité de ce que
Voilà,
j'ai vécu.
exactement. Mais c'est ton
Non,
expérience.
non. Ouais.
Et du coup, ta vie amoureuse en France et ta vie amoureuse en Angleterre, est-ce qu'il y a des différences?
Non. Je sais même pas
Mot pour
par quel bout
mot
prendre le
pareil.
truc. Ouais. Ma vie amoureuse en France. Enfin, voilà, j'étais en France jusqu'à l'âge de 27 ans. Quand on a la vingtaine, la vie amoureuse d'un mec de 20 ans, c'est pas la même que la vie amoureuse d'un mec de 30 ou voire plus. Parce qu'apparemment, j'ai plus. Voilà, enfin, ouais, en France, j'étais plus dans un état d'esprit où c'était plus physique qu'autre chose. J'avais des attentes physiques et j'avais envie de profiter. Je sais pas comment formuler ça. Comme j'ai dit, maman, si tu m'écoutes. Non, mais en soi, on va dire, pour le général, enfin, en soi, voilà, on va dire, je suis un hédoniste et j'aime profiter de la vie et de ce que la vie a à offrir.
Non mais là c'est pas pareil.
C'est pire, ouais, d'accord. Non, mais ouais, bah, en France, grosso modo, je voulais profiter, rencontrer des gars et me faire plaisir. Et j'avais pas trop dans l'esprit de me poser avec quelqu'un, même si ça, enfin, je me suis posé avec des gars quand même, mais c'est vrai que c'était pas ce que j'attendais, forcément. Alors qu'en Angleterre, je suis arrivé, j'avais, ouais, 27, 28. Je me suis bien amusé au début à Londres pendant un ou 2 ans, mais après, je cherchais un mec, je cherchais pas un plan d'une nuit, quoi. Ouais. Voilà.
T'étais plus dans la même
Dans le même
mindset
état
que ce que
d'esprit,
t'avais
ouais,
vécu.
c'est ça. Du coup, là, je peux, enfin, c'est difficile pour moi de comparer parce qu'il y a une histoire d'âge, il y a une histoire d'époque et voilà, c'est pas la même. Ouais, non, c'est ça.
Très bien. Mais du coup, ouais, est-ce que tu penses que tu nous as dit un petit peu tout par rapport à comment tu as vécu ton homosexualité du coup en Angleterre? Ou est-ce que tu as d'autres choses à nous dire?
Qu'est-ce que je peux rajouter? Ouais, ça, enfin, ça te, le fait de voir des gens aussi différents les uns des autres et d'être aussi indifférent au regard des autres, en fait, ça, c'est un truc qui est assez libérateur. Enfin, tu sens que tu peux être qui t'as envie d'être. Enfin, voilà, je voulais quand même faire un comparatif entre Londres et Paris. Je dis pas que Paris c'était si horrible que ça. C'est juste que effectivement, enfin, on va dire que ça, Londres, ça m'a ouvert à une autre dimension. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais.
Bah, ça tombe bien, la prochaine question. Je vais rebondir du coup dessus. Est-ce que tu as vu des différences entre ton expérience à Londres et du coup ben, à Brighton,
Alors
au
oui,
niveau
après. Bah, je suis très nouveau à Brighton. Ça fait moins d'un an que je suis là, donc j'ai le milieu homo, je le connais pas si bien que ça pour l'instant. Mais après Londres, enfin de toute façon, il y a une différence évidente, c'est que Londres, il y a 12 millions d'habitants et que Brighton, il y en a, je sais pas
beaucoup
combien,
moins.
mais beaucoup moins. Enfin, Brighton, c'est la ville homo par excellence,
Ouais,
quoi.
c'est la
Donc,
ville de la
ouais,
culture.
c'est ça. C'est un peu ça. Donc, je sais pas, c'est difficile de comparer, mais après, on va dire qu'à Londres, les choses étaient vachement. Ça donne l'impression, en tout cas, quand je sortais dans le milieu gay et tout, que les choses étaient. Il y avait un endroit pour les gays, il y avait un endroit pour les trans, il y avait un endroit pour, enfin, alors qu'à Brighton, tout le monde est un peu plus mélangé, que tout est un peu plus ouvert et moins, il y a moins d'étiquettes, il y a moins de soucis, tout ça, en fait, et c'est pas plus mal. Enfin,
C'est plus fluide, on va dire.
ouais, c'est ça. Après, je pense que Brighton, il y a tellement de diversité entre guillemets que ça, ouais, tu te sens, bah, je sais pas, comme je t'ai déjà dit avant, de temps en temps, la femme s'est émancipée, elle peut porter des pantalons, elle peut faire des choses, elle peut même voter, elle peut même voter, mais les hommes, on peut pas se maquiller, on peut pas porter de robe, on peut pas porter de jupe, on peut pas. Tout ce qui peut avoir attrait à la féminité, c'est toujours un problème dans la société actuelle, c'est évident. Et Brighton, quand je me promène à Brighton, je me dis que c'est possible et que ces fantasmes que j'ai de temps en temps, je pourrais peut-être les réaliser ici, alors qu'à Londres, je me serais pas senti forcément à l'aise avec ça, quoi.
C'est marrant que tu dis ça parce que justement, j'ai bon après moi je suis à Brighton depuis presque 8 ans. Mais quand les peu de fois où je vais à Londres, eh ben je me suis dit ouais attends quand même c'est Londres, grande capitale, machin et tout. Et en fait j'ai trouvé que les gens, genre quand je prenais le métro, ils me regardaient, tu vois.
Ouais.
Genre, ok, j'ai pas. Enfin, je me suis dit pour Londres, que j'ai des tatouages, des piercings et tout, les cheveux roses, mais. Ça va, quoi. Je me suis dit, on est quand même en Angleterre, ça reste Londres et tout. Et
Ouais.
en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est à Brighton, les gens ne me regardent pas, tu vois. C'est une vieille
Mais
ville. Ils ont l'habitude, en fait. Mais.
Londres a beaucoup changé. Le premier souvenir de toute ma vie, j'avais peut-être 3 ans, j'en sais rien, 4 ans, je sais pas. Ma mère m'a emmené à Londres l'été et il y avait deux meufs qui étaient, c'était des sœurs jumelles, c'était des punks, elles avaient des cheveux rouges, elles étaient assises sur un banc et juste à côté d'elles, il y avait un présentoir avec des cartes postales et quand ma mère avait tourné le présentoir, il y avait une photo des deux mêmes sœurs jumelles assises sur un banc et enfin, je sais pas, Londres, le mouvement punk, tout ça, ça. Quand j'étais plus jeune, je venais souvent l'été à Londres. Il y avait des gens qui vraiment étaient très très différents. Et je pense que Londres a perdu un peu ce truc-là. C'est plus aussi ouvert qu'à une époque. Et je pense que dans les années 90, début des années 2000, c'était vraiment chouette. Mais il y a aussi tout un truc, enfin, il y a eu le Brexit entre-temps, il y a eu le Covid, enfin, il y a plein de choses qui font que les gens se sont renfermés sur eux-mêmes et que dans une grande ville comme Londres, ça se ressent forcément ouais, je sais pas,
Je pense aussi que ça dépend où tu vas aussi, mais aussi d'une manière générale, Londres est beaucoup plus cher, donc c'est un peu moins accessible pour avoir la chance ou le privilège de pouvoir y vivre, quoi.
Je vois qu'il nous reste 1 minute 57 en
Rien
même temps.
déjà. Ok.
Dernière question. Quelle différence vois-tu en termes d'ouverture d'esprit entre la France et l'Angleterre? Est-ce que tu veux me dire ça en deux
Alors,
mots?
grosso modo, je dirais, en France, les premiers... En 10 minutes, c'est juste impossible. Je sais pas. La société en Angleterre, c'est une société individualiste. Chacun fait un peu ce qu'il veut et se développe comme il veut. En France, il y a une idée sociale qui fait que les idées évoluent en communauté. Et du coup, ça crée des différences forcément. Ne serait-ce que le mariage gay, par exemple, en Angleterre et en France, il n'y a pas du tout eu la même réception, on va dire. Voilà. Après, il me reste combien? Je ne sais pas. Bah, je voudrais remercier ma maman. Non, je sais pas, mais c'est vrai que de manière générale en Angleterre, le rapport à l'homosexualité est quand même très différent et ne serait-ce que culturellement, il y a pas toutes les références qui en Angleterre, en France, elles sont juste pas là en fait. Enfin. Je me suis jamais identifié à quelqu'un d'homo quand j'étais plus jeune parce qu'il y avait personne en fait. Ouais. Il y avait La Cage aux Folles, un grand film.
Si tu veux rajouter quelque chose sur les ouais,
Non,
ça sera
faire de gros bisous à tout le monde, voilà.
Non, mais vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé
Ouais.
ton expérience en tant que personne celle vivant à l'étranger.
Ouais.
J'ai envie de te demander, est-ce que la vérité est ailleurs alors?
J'ai envie de dire oui.
Merci encore à Thomas pour nous avoir accordé du temps. Si vous souhaitez le suivre sur les réseaux sociaux, ça se passe sur Instagram @tomandpix ou en cliquant directement sur son nom dans la description de l'épisode. Si vous avez apprécié cette écoute, on vous encourage à déposer un petit pouce bleu ou à laisser une étoile sur vos applis de podcast préférés afin d'améliorer son référencement. Vous venez donc d'écouter Le Placard, émission préparée et présentée par Petite Eva et mes filles. Rendez-vous donc le mois prochain pour un nouvel épisode du Placard.